7h. Le journal du 7h. Marthe Cacou.
Nous sommes le vendredi 18 août 2023. Tout de suite, les faits majeurs. Élections locales, municipales et régionales couplées, plus de 8 millions d'électeurs vont exprimer leur droit de vote le samedi 2 septembre prochain dans 10 761 urnes. Information donnée par Koulibaly Cuibière Ibrahim, le président de la CEI. C'était hier au cours d'une rencontre avec les candidats et les représentants des partis politiques. Les échos dans quelques petites minutes. Crise au Niger, fin aujourd'hui de la réunion militaire ouest-africaine pour discuter d'une éventuelle intervention armée contre la junte au pouvoir et sur le front diplomatique. Berlin réclame des sanctions européennes. Juste après l'actualité hors des frontières ivoiriennes, Didier Blé nous rejoindra pour la revue des titres de vos journaux parus ce matin. L'invité de la rédaction pour refermer cette édition est maître de conférence en géographie à l'université Jean-Lorougnon Guédé de Daloa. Docteur Guillaume Guessant se prononcera sur la récente décision de suspendre les ventes à terme du cacao ivoirien pour la saison 2023-2024. Voilà pour l'ossature. Bonjour à tous, élection locale du 2 septembre prochain. La commission électorale indépendante qui dénonce par ailleurs des activités de propagande électorale avant l'ouverture de la campagne a présenté hier le guide pratique des scrutins aux candidats. Désormais, chacun d'eux est situé sur ses responsabilités pour le bon déroulement de la campagne qui commence le 25 pour s'achever le 31 août et des opérations de vote. Junior Cardin nous en dit un peu plus.
C'est au commissaire central Bamba Sendou qu'il est revenu de présenter le mode opératoire de ces élections couplées du 2 septembre. Il évoque quelques cas particuliers.
Le premier cas, c'est dans les districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro. 13 communes à Abidjan et 2 communes à Yamoussoukro. Dans ces 15 communes, nous aurons un seul vote, le vote des conseillers municipaux. Le deuxième cas, c'est la tenue des scrutins couplés dans les 186 communes sur l'ensemble du territoire national. Et le troisième cas de figure, c'est les zones rurales. Au niveau des 31 régions de Côte d'Ivoire, nous aurons les élections des conseillers régionaux.
Après avoir passé en revue tout le mécanisme du vote, Bamba Sendou a indiqué que les dépouillements des deux scrutins se feront de façon alternative.
Seuls les membres des bureaux de vote et les scrutateurs sont autorisés à faire le dépouillement. Donc vos représentants ne peuvent pas s'impliquer directement, ils sont observateurs, ils regardent.
Quant aux candidats qui sont déjà en campagne avant l'heure, le président de la CEI s'est voulu un peu plus menaçant à leur rencontre. Koulibaly Cuibière.
Mais ils semblent être les plus nombreux qui font déjà campagne avant l'heure. C'est interdit. Il faut attendre le moment.
La campagne sera ouverte le 25 août pour prendre fin au 31 août à minuit. Donc s'il vous plaît, à partir de ces jours, si quelqu'un pose des actes allant dans le sens de la contrariété de la loi, sa candidature peut être invalidée.
Au terme des échanges, le bureau ivoirien du droit d'auteur Burida a communiqué quelques mesures. Il s'agit du paiement d'une redevance allant de 50 000 à 600 000 francs CFA pour l'utilisation des œuvres de l'esprit pendant la campagne électorale, le minimum étant de 300 000 francs à Abidjan.
À quelques jours des municipales et régionales couplées prévues le samedi 2 septembre prochain, l'instance de régulation de la presse imprimée et numérique lance un appel aux journalistes et aux hommes politiques, aux guides religieux ainsi qu'à la société civile, un appel à mettre fin aux élections avec violence en Côte d'Ivoire. À cet effet, l'autorité nationale de la presse, avec le soutien de l'UNESCO, a organisé un atelier de concertation entre ces deux parties. C'était hier à Abidjan, Francis Cassi a assisté à son ouverture.
Ouvrant la série des allocutions, le président de l'Autorité nationale de la presse a souligné que malgré l'antagonisme des joutes électorales, la Côte d'Ivoire peut être abonnée aux élections dans la paix. Samba Kone.
Que les élections se révèlent comme des moments de forte crispation, des tensions exacerbées, n'est pas spécifique à notre pays. C'est pourquoi l'Autorité nationale de la presse a jugé utile de donner la parole aux différents groupements qui font l'actualité dans nos villes, dans nos cités, hommes politiques, guides religieux, organisations de la société civile. Qu'attendez-vous de la presse pour des élections sans violence?
À son tour, le représentant de l'UNESCO à Abidjan a mis les uns et les autres face à leurs responsabilités. Ouma Diop.
Chers amis journalistes, chers guides religieux, chers membres de partis politiques, cette rencontre est le symbole d'une volonté commune d'écrire une nouvelle page afin de créer un cadre propice à des élections apaisées.
Dans son discours d'ouverture de cet atelier de concertation, le directeur du cabinet du ministre de la Communication s'est félicité de sa tenue. Martial Adou.
L'initiative du présent atelier de concertation est donc à saluer, surtout qu'il se tient à quelques jours des élections locales prévues. Il nous faut éviter de croire et d'agir comme si la démocratie se conjugue avec la violence.
Après son ouverture, l'atelier de concertation organisé par l'ANP a démarré par une conférence inaugurale du professeur en sciences de la communication Hadji Baye sur le thème « Quelle contribution de la presse à des élections sans violence ?»
Pour briser le mur de méfiance entre les forces de sécurité et les populations sur l'ensemble du territoire national, l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire a entrepris une série d'activités sportives, notamment un match de football, facteur de rapprochement entre les habitants de la ville de Mans et les forces de l'ordre. Objectif, promouvoir la police de proximité. Stéphane Adams a suivi l'étape de Mans.
Un match de football opposant les forces de sécurité à une frange de la population de Mans répond à un besoin. Alexis Bi, leader de la société civile ivoirienne, bénéficiaire d'un programme américain.
C'est une activité qui consiste à montrer aux yeux de tous que la police, la gendarmerie et la population manoise font désormais un pour assurer de façon optimale leur sécurité, qu'on appelle police de proximité. C'est dans ce cadre-là que tout cela évolue.
Propos appuyé par la représentante de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, initiatrice de cette activité.
Je m'appelle Laurie. Je vous assure que je suis incroyablement impressionné. Si c'est des compétitions de football, on peut en faire à Fusion, on peut en faire gendarmerie contre la police, société civile entre elles. Mais l'innovation que nous apportons aujourd'hui, c'est les gens qui vivent ensemble dans une communauté. C'est quand ils viennent dans leur fonction qu'ils deviennent gendarmes, police. Nous les ramenons à leur communauté. De sorte à ce qu'ils soient ensemble, c'est de renforcer beaucoup plus cette cohésion-là, à faire tomber le mur de méfiance et puis à créer beaucoup plus de cohésion et de confiance.
Des participants au terme de la rencontre.
Kone Doloru, je suis policier au Gémiment. Le football, ça a toujours été un facteur de rapprochement. Ce qui m'a plu, il n'y a pas eu d'altercation entre nous et les civils. C'était le plus important. Merci à la société américaine. Bon vent à eux.
Nous voulons sensibiliser les femmes de moi-même, de faire une équipe de football des femmes. Ça sera encore plus bon. Parce que je ne suis pas de faire aujourd'hui, puis parti, et puis revenons l'année prochaine. Il faut qu'on ait une équipe féminine.
Notons que d'autres régions du pays bénéficieront de ce même exercice. Stéphane Adams, Mans, Radio de la Paix.
Il faut noter aussi que le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan hier pour un séjour en France. Bonne gouvernance et éthique dans les affaires. Un forum est prévu dans ce sens du 26 au 27 septembre prochain. Et cela à l'initiative d'un cabinet de la place en collaboration avec la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Le but étant de faire la promotion des notions de bonne gouvernance dans le milieu des affaires en Côte d'Ivoire, comme l'explique ici Philippe Kodjo, expert international en bonne gouvernance et en lutte contre la corruption.
La conformité se présente comme le dispositif de régulation des activités publiques comme les activités privées. Donc c'est la mise en place de dispositifs de normes législatives comme réglementaires qui permet aux entreprises d'avoir un bon fonctionnement, d'avoir une certaine transparence dans leur gestion de tous les jours. Donc le forum a pour objectif de créer une plateforme d'échange entre opérateurs du secteur public comme du secteur privé, afin de développer les bonnes pratiques, de mettre en lumière les dispositifs juridiques étatiques pour la bonne gouvernance des entreprises. Aujourd'hui, le monde des affaires, c'est un environnement où le business doit être transparent, où on demande aux entreprises d'avoir une certaine transparence dans la gestion et de favoriser, on va dire, même l'ascension des plus petits que soi.
Alors, un forum pour la conformité et l'éthique des affaires du secteur privé et secteur public, c'est parti de quel constat ?
En fait, comme l'environnement ici en Côte d'Ivoire est déjà propice et le chef de l'État a instillé instituer la bonne gouvernance comme action principale de son mandat. Donc, nous sommes dans cette dynamique-là, question de rendre transparent le monde des affaires. Donc, ce forum-là nous permet de tirer la sonnette d'alarme sur la bonne gouvernance des entreprises.
À l'instant, Philippe Kodjo, expert international en bonne gouvernance et en lutte contre la corruption, il était interrogé par Jean-Claude Comé. Les femmes de la région de Gbeke ne veulent pas rester en marge du développement local. Bien plus, elles entendent prendre leur place dans toutes les initiatives visant à les valoriser dans la perspective de leur autonomie financière. Elles l'ont exprimé à l'occasion d'une rencontre tenue récemment au marché de Gros de Boaké, d'où nous appelle Joseph Assalé, notre correspondant régional dans le Gbeke.
Les projets productifs initiés par le gouvernement en vue de l'autonomisation des femmes à travers la création d'activités génératrices de revenus ne sont pas mieux vulgarisés. C'est le constat de Dr Mariam Kone, présidente de l'Association des femmes de la région de Gbeke.
Il y a beaucoup de programmes d'accompagnement de femmes qui sont initiés par le gouvernement. Les femmes de nos régions, généralement, elles n'en bénéficient pas parce qu'elles n'arrivent pas à mettre en adéquation leurs besoins et le programme d'activité qui est mis en place. Et souvent, quand on arrive dans nos régions, on est un peu meurtri de constater que ces programmes-là, elles n'en bénéficient pas du tout. Et on se demande à quoi on sert d'être éduqué, cultivé, instruit, d'être au parfum et informé de ce qu'il y a. Si on ne peut même pas passer l'information à nos sœurs. Donc la meilleure des façons, c'était d'abord, je ne dirais pas de changer leur mentalité, mais de les emmener à comprendre qu'elles devaient s'approprier pour elles-mêmes tous les programmes.
Pour ce faire, Dr Mariam Kone invite les femmes à prendre toute leur place dans le développement local. Une exhortation que les responsables d'associations féminines entendent se l'approprier.
Togwa Waima, présidente de l'association Yekloyo Achelekro. Nous envisageons d'être un peu plus fortes puisque déjà nous sommes unis grâce à maman Mariam Kone. Aujourd'hui, nous essayons d'aller de l'avant. Croire en nous, avoir confiance en nous.
Le maire de Boaké, Djibo Youssouf Nicolas, se dit prêt à accompagner les initiatives des femmes visant à leur autonomie financière. Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix.
Nous ouvrons maintenant la page de l'actualité internationale avec la réunion entre les responsables militaires des pays de la CEDEAO, un rassemblement qui s'achève aujourd'hui à Accra au Ghana. Si l'option d'une opération armée reste sur la table, la CEDEAO semble encore privilégier la voie du dialogue. Pendant ce temps sur le front diplomatique, hier l'Allemagne a haussé le ton en appelant l'Union européenne à prendre des sanctions contre les auteurs du coup d'État dans ce pays, le Niger, pour l'approvisionnement du continent européen en uranium. En visite au Nigeria, la ministre allemande de la coopération, Svenja Sulje, a mené des discussions à Abuja pour voir comment soutenir le mieux possible les efforts de la CEDEAO, a encore indiqué le ministère cité par l'agence France Presse. Un mot sur la santé de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko. Ses avocats et son parti dissous ont indiqué hier qu'il a été admis dans un service de réanimation à l'hôpital alors qu'il est détenu depuis fin juillet, rapporte l'AFP. On continue avec la revue des titres de vos journaux et c'est Didier Blé qui a fait ce matin sous une pluie battante le tour des kiosques. Bienvenue Didier.
Bonjour Marthe, bonjour à tous. Élections municipales et régionales du 2 septembre 2023. La liste électorale définitive est désormais disponible et elle compte un peu plus de 8 millions d'électeurs. Et la campagne électorale s'ouvre du 25 août 2023 pour prendre fin le 31 août à minuit. C'est ce qu'a relevé le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Koulibaly Cuibière, lors d'une rencontre d'échange avec les candidats tenue ce jeudi 17 août à Abidjan. Et la plupart de nos quotidiens en parlent, mais ce qui est mis en relief en une, ce sont les précisions et mises en garde de Ibrahim Cuibière. Les téléphones portables sont interdits dans les bureaux de vote. Peut-on lire en une du sursaut quand le matin barre à sa une, la CEI met en garde les candidats en campagne tout en rassurant que la sécurité sera de mise. Chez l'Inter, on peut lire en une, la CEI a mis en garde les candidats, signifiant que des candidatures risquent d'être invalidées. Fraternité Matin, à côté de l'intérêt porté au mode opératoire du scrutin du 2 septembre prochain, nous informe que dans le prolongement des infrastructures routières. Après le pont Alassane Ouattara, reliant plateau à Cocody, inauguré samedi dernier, l'autoroute Yamsoukro-Boaké rejoint la capitale de Gbeke jeudi prochain. Mais face à toutes ces réalisations, le PPACI de Laurent Gbagbo ne semble être nullement séduit. En témoigne cette sortie de Kone Katina, son porte-parole, qui est cette ambivalence de propos. Le pont est beau, mais les gens meurent de faim. C'est à lire à la une du quotidien d'Abidjan.
Didier Blé qui reviendra à 8h pour parcourir les titres à la une de vos tabloïds. La rédaction est la dernière articulation de ce journal. Maître de conférence en géographie à l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa, docteur Guillaume Guessan, se prononce sur la récente décision du directeur général du conseil Café Cacao de suspendre les ventes à terme du cacao ivoirien pour la saison 2023-2024 à raison des pluies torrentielles qui surviennent. En quoi ces pluies ont-elles un impact sur la production et quelles sont les conséquences d'une telle décision sur l'économie ivoirienne, les éclairages dans cet entretien conduit par Jean-Claude Comi.
Docteur Guillaume Guessan, bonjour.
Bonjour.
La Côte d'Ivoire, à travers donc la structure du Conseil Café Cacao, a décidé de suspendre ses ventes à terme du cacao en raison des pluies torrentielles. Pour commencer, la vente à terme, c'est quoi ?
Alors, ce qu'il faut dire déjà de la situation, c'est que la Côte d'Ivoire a choisi de vendre par anticipation son cacao, c'est-à-dire que les clients sont connus par avance, on leur vend la production qui doit venir des années, on va dire, après. Alors donc, ce système consiste pour la structure en charge du café cacao de pouvoir profiter donc des éventuelles hausses de prix sur le marché international. Alors donc, c'est un système qui, dans l'entendement du conseil café cacao, devrait profiter donc à la Côte d'Ivoire et donc aux producteurs.
Alors donc, ce système de vente est suspendu en raison des pluies torrentielles. En quoi les pluies pourraient impacter ce système de vente-là ?
Alors, la difficulté que la Côte d'Ivoire risque de rencontrer, c'est qu'avec les perturbations climatiques, la production attendue risque de ne pas être atteinte. Alors, par conséquent, il peut se trouver que les prévisions de livraison donc, aux clients pourrait connaître aussi un déséquilibre. Donc, de façon logique, le conseil Café Cacao prend les dispositions pour ne pas se retrouver face à cette situation. Parce que vendre des contrats d'exploitation alors que l'avenir de la production, on va dire pour la saison prochaine, octobre, risque donc d'être perturbé. On risque de ne pas avoir les quantités souhaitées donc pour livrer aux clients à qui nous avons l'habitude de livrer le cacao. Alors, c'est une mesure de précaution, c'est une mesure de prudence que prend le Conseil Café Cacao. Quel est son impact alors donc pour la filière ? On attend de voir.
Justement, les conséquences d'une telle décision, surtout pour les producteurs, seront lesquelles ?
Alors, logiquement, ce qu'il faut noter dans un premier temps, selon ce qui est décrit par le Conseil Café Cacao, les perturbations climatiques risquent d'impacter la production. Et donc, s'il y a sous-production de la Côte d'Ivoire qui offre, on va rappeler, hein, 40% du marché mondial, ça veut dire qu'il y aura une pénurie du produit sur le marché international. Et en pareille situation, la logique voudrait que les prix grimpent. Voilà. Donc si les prix grimpent, cela devrait profiter logiquement au pays d'abord et aux producteurs après.
Donc une conjoncture favorable hein, par rapport à ces prix-là, éventuellement, comme vous avez dit.
Éventuellement, cette situation devrait profiter puisque nous aurons moins de cacao sur le marché et la demande sera forte et donc logiquement les prix devraient grimper et les prix achetés aux producteurs aussi.
Alors même quand on sait qu'ici le système ivoirien permet une fixation d'un prix, c'est-à-dire que bon, le paysan pourrait bénéficier de ce prix-là quand on sait que c'est le gouvernement qui fixe les prix.
Alors logiquement ça devrait profiter aux acteurs, mais quand on sait que pour un pays comme la Côte d'Ivoire, le cacao représente on va dire son économie, les recettes du cacao permettent à l'État de faire beaucoup de choses et donc les prévisions de l'État en matière donc du budget, en matière donc de financement de l'économie proviennent aussi des ressources tirées du cacao. Qu'est-ce que l'État a prévu financer? Qu'est-ce que l'État a prévu dépenser? Est-ce que l'argent rapporté par le cacao pourra permettre à l'État de faire ses dépenses et qu'il y ait un surplus qu'on peut répertorier sur le revenu du paysan? Tout ça reste des hypothèses à voir. Parce que si, effectivement, les coûts grimpent, puisque nous sommes dans cette dynamique depuis un certain temps, si les prix grimpent, l'État aussi relève un peu à la hausse ses ambitions de développement. Alors, est-ce à dire qu'on va prendre toute la manne générée par le cacao pour le déverser seulement chez les producteurs? Je ne crois pas que c'est ce que l'État va faire. Il y a aussi des chapitres de dépenses de l'État et qui font que l'État ne peut pas déverser tous les bénéfices du cacao chez les producteurs.
Quand on sait que le pays aussi a deux fois un système de péréquation, hein, lorsque ça va, on essaie de mettre de côté et puis bon, quand ça ne va pas, on essaie de compenser. Alors, vous parliez du contexte mondial qui note une certaine augmentation du prix à l'international. Ce facteur est dû à quoi, docteur?
Vous savez, le marché du cacao est soumis à plusieurs facteurs. Alors, il y a des facteurs naturels, notamment les perturbations climatiques qui risquent de perturber la production et donc réduire les quantités que la Côte d'Ivoire va offrir au marché international. C'est un facteur susceptible de faire grimper les prix. Il y a aussi l'intervention de la Chine en tant que acheteur du cacao. Donc la demande au niveau mondial commence à gonfler du fait que la Chine devient aussi un client important dans l'achat du cacao. Voilà, on va dire deux facteurs déjà qui sont en faveur donc de cette situation favorable pour la hausse des prix du cacao.
Docteur Guillaume Nguessan, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Maître de conférence en géographie à l'université Jean-Laurent Nyonguédé de Daloa, l'invité du jour se prêtait aux questions de Jean-Claude Comi. Et pour clore, le rappel de l'essentiel. Élections locales, municipales et régionales à coupler, plus de 8 millions d'électeurs figurant sur la liste électorale définitive vont exprimer leur droit de vote le samedi 2 septembre prochain dans 10 761 urnes. Information donnée par le président de la commission électorale indépendante, Koulibaly Kuibier Ibrahim, qui dénonce par ailleurs des activités de propagande électorale avant l'ouverture de la campagne. C'était hier, au cours d'une rencontre avec les candidats et les représentants des partis politiques. Merci de votre attention. Je reviens à 8h pour un autre journal sur Radio de la Paix.
Radio de la Paix, pour vous et avec vous.